France Culture.
Plan large. Le rendez-vous cinéma sur France Culture, Antoine Guillot.
Fatigue des durs à cuire ce samedi dans Plan Large avec Clint Eastwood vu et revu par Bernard Benoliel, Thomas Gijol et aussi Charlotte Garçon. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Plan Large. Ce sont deux acteurs et cinéastes qui nous intéressent cette semaine. Du premier, on avait déjà longuement parlé dans cette émission et c'était déjà avec Bernard Benoliel, mais ça commence à dater un peu. C'était le 2 février 2019. Il était en compagnie de l'Allemande Andrea Grunert, autrice d'un dictionnaire au cinéaste, acteur, producteur, musicien consacré. C'était paru chez Vendémiaire. Mais outre que trois nouveaux films sont sortis depuis cette émission, la pensée de Benoliel sur Eastwood s'est considérablement approfondi et affiné dans le même geste et abouti à une somme qu'on dirait définitive si l'Américain ne s'était donné comme objectif lors de la célébration cannoise des 100 ans de Manuel de Oliveira en 2008 de durer au moins aussi longtemps comme homme et comme cinéaste que le maître portugais. Le livre vient de paraître, il fait 512 pages et y résonne par-delà le foisonnement des titres et une étonnante diversité de genres et de tons, les questions d'image, de communauté, de violence, de temps, de liberté et autres qui, dans la filmographie eastwoodienne, 40 films réalisés à ce jour, sans compter ceux qu'il a non officiellement réalisés ou seulement interprétés, qui forment un tout. Le tout sous la forme décrite en préface par une Patricia Mazui qui voit en l'auteur tout à la fois un personnage à la Capra et le cousin de province de Dirty Harry et de José Wells, d'un roman américain dont le personnage principal traverse les années torse nu et vieillit au fur et à mesure, et très bien d'ailleurs. Un personnage vieillissant, lui aussi, travaillé lui aussi par les questions de la violence, faut-il la laisser perdurer ou l'exercer soi-même, travaillé par les questions de l'autorité en ville comme en famille. C'est le commissaire Bilong qu'interprète et filme Thomas Gijol dans Indomptable. Il nous dira tout à l'heure comment s'est imposé à lui ce personnage à rebours des comédies qu'il interprétait et réalisait jusqu'à présent. En fin d'émission, Charlotte Garçon s'intéressera à des débuts de films et pas des moindres, à l'occasion d'un livre consacré à cette forme cinématographique de l'incipit. Mais pour l'heure, on commence par une mise au point dans un parking souterrain.
You heroes have killed a dozen people this week. What are you gonna do next week? Kill a dozen more? Is that what you guys are all about, being heroes?
All our heroes are dead.
We're the first generation that's learned to fight. We're simply ridding society of killers that would be caught and sentenced anyway if our courts worked properly. We began with the criminals that the people know, so that our actions would be understood. It's not just a question of whether or not to use violence. There simply is no other way, Inspector. You, of all people, should understand that. Either you're for us or you're against us. I'm afraid you've misjudged me.
Bon. Bonjour Bernard Benoliel.
Bonjour.
Je crois que vous vous êtes trompé sur mon compte. C'est l'inspecteur Harry qui parle. Il le dit à une bande de motards à lunettes noires qui tentent de le recruter dans leur croisade d'exécution sommaire. C'était en 1973 dans Magnum Force, le deuxième épisode de la série des inspecteurs Harry. Autrement dit, je ne suis pas celui que vous croyez, mais bien plutôt, je suis celui que je veux être, comme disait Branko Billy, phrase qui donne son titre à votre livre, Bernard Benoliel, et à laquelle on pourrait accoler une réplique plus tardive d'un personnage falot et pourtant héroïque d'un film tardif dans le corpus eastwoodien. Il s'appelle Richard Jewell, qui va dire, lui, je suis celui que je suis. Le Eastwood qu'on voit à l'écran, c'est en permanence une construction.
Oui, oui, c'est en permanence une construction, une auto-construction, puisque l'extrait qu'on vient d'entendre se situe, j'allais dire, à l'épicentre du problème eastwoodien. Donc on est, c'est Magnum Force, c'est 1973, c'est le deuxième épisode pour cause de succès de l'inspecteur Harry, mais aussi pour cause d'incompréhension critique. Puisque le premier des inspecteurs Harry en 1971, non seulement a cassé la baraque au box-office, mais a été traité par l'intelligentsia, et en particulier par le New Yorker,
par
Pauline Kael, pour ne pas la nommer, a été traité de film fasciste et de films immoraux. Et donc ça a suscité grande polémique, un émoi de la part même d'Eastwood, comme se demandant s'il était passé à côté d'une dimension de son personnage. Après, il est compliqué de revenir là comme ça sur la polémique, mais toujours est-il que Pauline Kael a en quelque sorte amalgamé personnages, acteurs, cinéastes et films. Elle a mis tout le monde dans le même paquet. Toujours est-il qu'il fallait pour Eastwood se justifier, s'expliquer et puis rectifier son image. Et ce qui est beau dans les années 70, c'est qu'effectivement, en tant qu'acteur et aussi en tant que réalisateur, puisque c'est la décennie où il commence à mettre en scène, il va en quelque sorte se servir de ses films comme d'une riposte visuelle. C'est-à-dire qu'il va vraiment travailler son image, à même les films. Et quand ici, il dit à des motards authentiquement néo-nazis ou fascistes, je crois que vous vous êtes trompé sur mon compte, évidemment, il répond aussi à Pauline Kael, il répond à ses détracteurs, et il leur dit non, je ne suis pas celui que vous croyez. Et donc c'est tout l'enjeu d'image d'Eastwood, dans les années 70 et un peu au-delà, que d'arriver, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a mis 10 ans à avoir une image au cinéma. Pendant 10 ans, entre le milieu des années 50 et le milieu des années 60, il a du mal à percer au cinéma, il n'arrive pas à avoir d'image et de visage. Et puis quand enfin il en a un, que ce soit dans les westerns de Sergio Leone ou dans les films de Don Siegel, et ben cette image est problématique ou ne correspond pas à celle qu'il voudrait donner. Donc voilà.
Peut-être que le fait qu'il était touché par la critique de Pauline Kael interroge malgré tout le personnage tel qu'il a construit, que ce soit l'inspecteur Harry ou d'autres, qui est précisément la question de la violence. Comment un personnage, et c'est le Eastwood d'enserré à la veine palpitante sur le front, sur la tempe, comme l'avait très bien décrite Luc Moulet, qui a une violence, une fureur froide, je crois, qui doit jaillir. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on en fait? Et surtout, comment on la filme?
Oui. En fait, le premier, l'inspecteur Harry de Don Siegel, répond d'une certaine manière à toutes ces questions. C'est-à-dire que le film, pour le dire d'un mot, le film est en deux parties. Donc, dans la première partie, on a plutôt de la sympathie ou de l'empathie pour ce personnage, parce qu'il est plutôt séducteur, cool et élégant. Et dans la deuxième partie, le portrait se pathologise. Le portrait de l'inspecteur Harry devient beaucoup moins séduisant. Et donc c'est une sorte de catharsis à l'envers. Et le film lui-même organise, je dirais, la déconstruction de la figure héroïque qu'il a posée au départ. Et dans la grande scène, il y a une grande scène où à un moment l'inspecteur Harry s'en prend à Scorpio, donc le vilain, celui qu'il faut à tout prix éradiquer. Il le coince et avec un plaisir sadique, il appuie sur sa blessure, il le torture pour obtenir de lui une information. Là, il se joue beaucoup de choses dans cette scène qui a beaucoup choqué, mais qui, si on regarde le film, et encore une fois, le film est le document, le film est la preuve, du moins là où sont les signes. Eastwood lui-même a dit qu'il avait insisté pour jouer le personnage comme il l'a joué à ce moment-là, parce qu'il dit « j'ai pensé que c'était la vérité du personnage ». Ça ne veut pas dire la vérité de l'acteur, ça veut dire la vérité du personnage. Et Don Siegel lui-même lui avait dit « tu prends un risque d'image ». Mais c'est justement ça aussi le travail d'acteur. Et à ce moment-là, au moment où il se produit cette torture, Don Siegel et il fallait vraiment être à une époque où on voulait pas le voir, organise un incroyable travelling arrière en hélicoptère depuis le personnage problématique jusque dans les cintres du stade. C'est-à-dire qu'on peut pas montrer plus clairement une désolidarisation. On peut pas montrer plus clairement que Siegel n'adhère pas au personnage et à son comportement. Mais on était dans une époque, les années 70, où, comme disait Eastwood, à cette époque-là, tous les libéraux traitaient les conservateurs de fascistes et tous les conservateurs traitaient les libéraux de communistes. Donc bon, on était c'était une guerre idéologique. Et le film lui-même contient effectivement une rage, une pulsion, mais quelque chose qui n'est pas là par hasard ou par mégarde, mais qui constitue la complexité du personnage de Harry, et une complexité qui ira, en tout cas dans la série des Harry, puisqu'il y en aura 5 au total, elle ira en s'amenuisant, parce qu'elle est effectivement problématique.
Même s'il reviendra sur le motif à l'envers, à un autre bout de sa filmographie, à propos de Gran Torino, qui est aussi en deux parties, mais là c'est exactement l'inverse. Alors l'inspecteur Harry malmène les corps, mais le corps le plus malmené de la filmographie d'Eastwood, c'est quand même le sien. Il s'en prend quand même de partout. Et dès les débuts, il y a une jambe amputée dans les proies de Don Siegel, le visage brûlé par le désert chez Sergio Leone, et tout au long de sa filmographie, le personnage Eastwoodien subit une sorte de martyr permanent, masochiste, Clint Eastwood.
Ah, sans doute. Enfin, en tout cas, je pense que c'est une part de son érotique ou de son érotisme. Il y a une dimension masochiste chez lui. Elle est représentée, mais à une époque, par exemple, ces mêmes années 70, où on le voyait beaucoup plus comme sadique que comme masochiste. De même qu'on le voyait beaucoup plus macho et miso qu'il n'était considéré comme féministe ou politiquement dans la bonne ligne. Donc effectivement, le masochisme est quelque chose qui frappe, si je puis dire, quand on revoit que ce soit les films de Sergio Leone, les films de Siegel ou les propres films d'Eastwood.
Bah le martyr va jusqu'au Eastwood âgé, se déplaçant avec difficulté à l'écran
oui,
à l'âge qu'il a aujourd'hui.
Bien sûr, mais là, d'une certaine manière, on pourrait dire qu'il joue en quelque sorte à se perpétuer. En revanche, le masochisme travaille d'une certaine manière cette question de la déconstruction, pour employer un mot d'aujourd'hui, la question de la déconstruction de l'image, ou plutôt du cliché, qu'il ne cesse de véhiculer. Et lui, dans ses films, passe son temps, en quelque sorte, à malmener cette masculinité, soit à la confier à une femme, je pense à L'épreuve de force, avec Sandra Locke, soit, effectivement, à en prendre plein la gueule. Une façon de ruiner une certaine élaboration héroïque qui va à l'encontre, à mon avis, d'une partie de la sensibilité d'Eastwood.
Déconstruction du héros, de la légende, du mythe, autre exemple.
Just because we're going on this killing, that don't mean I'm going to go back to being the way I was. I just need the money. Get a new start for them youngsters.
Yeah.
Ned, you remember that drover I shot through the mouth and his teeth came out the back of his head? I think about him now and again. He didn't do anything to deserve to get shot. At least nothing I could remember when I sobered up.
He was one crazy sumbitch, Will.
Yeah, no one liked me. The boys all thought I was gonna shoot him out of pure meanness.
Well, you ain't like that no more.
Eagle, he hated my guts. Bonaparte didn't think too much of me either.
Quincy neither, right?
No. Quincy used to just watch all the time. Scared.
Well, like I said, you ain't like that no more.
That's right. I'm just a fella now. I ain't no different than anyone else. No more.
C'est pas parce qu'on va à cette tuerie que je retourne à celui que j'étais avant, ce fils de pute qui massacrait tout le monde quand il était sous, au point que personne ne l'aimait, surtout pas ses comparses qui craignaient toujours d'être abattus par pure cruauté, pour peu qu'il ait bu. C'est le vieux Bill Money qui raconte ça au coin du feu dans Impitoyable à son vieil ami Ned Logan. Mais maintenant, dit-il, il a changé, il est juste un type ordinaire, pas différent de n'importe qui. C'est fini, conclut-il, on verra ce qui se passe dans la suite du film. Il y a beaucoup de fantômes dans les films de Eastwood, depuis c'est L'homme sans nom, José Wells, L'homme des hautes plaines et autres. Il y en a même à la toute fin de sa filmographie. Ici, on pourrait dire c'est une sorte de fantôme au carré, puisque Bill Money est à la fois un fantôme du passé, lui-même hanté par les fantômes de tous ceux qu'il a tués. Vous l'écrivez dès le début de votre livre, Bernard Benoliel, sous la surface, le cool Eastwood s'avère un possédé.
En tout cas, ce que je trouve très très beau et très fort dans cet extrait, alors il faudrait aussi en restituer la dimension visuelle, puisque donc c'est un feu de camp, ils sont dans une nuit absolument noire.
On entend les coyotes hurler au loin.
Voilà, les coyotes hurler, et le maigre feu de camp vient éclairer le visage d'Eastwood, à la fois raviné et déjà saisi par une fièvre qui va l'accompagner par la suite dans le film. Et donc là, il se livre un peu justement dans un état second, le personnage en tout cas, à une sorte de confession, ou à une sorte d'aveu de celui qu'il a été et de celui qu'il dit ne plus être ou ne veut plus être. Et ça, c'est... Alors là, on est 10 ans après exactement l'extrait précédent, 20 ans après Magnum Force.
1992.
Donc on est dans les années 90, à un moment où la réflexion d'Eastwood sur lui-même, sur le genre, le western, sur son personnage atteint une sorte d'accomplissement. Mais surtout, ce que ça dit du personnage ici, c'est qu'évidemment, le personnage de tueur joué, donc il joue, rêve d'une déprogrammation de lui-même. Il rêve de ne plus être celui qu'il était. Et évidemment, cette déprogrammation, et c'est là que se situe à la fois le pessimisme eastwoodien et le travail qu'il fait à l'image sur le noir, c'est-à-dire sur l'ombre, l'ombre envahissante et l'ombre qui gagne de plus en plus de terrain, c'est que vous pouvez bien rêver d'une déprogrammation au pays qui a tué JFK, vous pouvez toujours courir. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus de déprogrammation que de transmission pure, et il n'y a en fait, là où on rêve de déprogrammation, il n'y a que répétition. Et répétition de la violence. Parce que cette violence, elle est engrammée, elle est dans l'homo americanus, alors qu'elle soit en soi ou un héritage de son histoire, toujours est-il que c'est le grand sujet eastwoodien des années 90, et il y a deux films jumeaux, hein, Impitoyable, et le film d'après, qui est Un monde parfait, et où là, le personnage joué par Kevin Costner rêve lui aussi d'une auto-déprogrammation ou de se dessaisir en quelque sorte de sa violence. Et en fait, il ne fait que la transmettre tout en se transmettant en même temps autre chose. C'est toujours le bien et le mal ensemble. Et ça, c'est très très beau, je trouve, dans cet extrait un peu effectivement fantomatique. Fantôme du passé, mais fantôme à éradiquer et fantôme impossible à tuer.
Alors, les années 90, c'est l'acmé de la reconnaissance institutionnelle et critique d'Eastwood. Et j'ai le sentiment que c'est pas l'Eastwood que vous préférez, justement. Les images un peu léchées, ces noirs très travaillés, parce que quand il fait des films qui, à nouveau, sont mal vus, mal compris, détestés parfois par la critique, ben j'ai le sentiment que ce côté, je vous cite, un plus fruste, imparfait à l'ancienne manière, ça vous plaît bien, parce que Eastwood est moins un cinéaste de la grande image et de la grande mise en scène auteuriste. C'est quelqu'un qui expérimente, c'est quelqu'un d'une seule prise, c'est quelqu'un qui va travailler sur le raccord, sur le montage, plus que sur le grand film d'auteur canois.
Absolument. En tout cas, moi, je trouve que dans les années 90, il atteint une sorte d'équilibre. Mais effectivement, j'aime beaucoup son geste, je dirais, plus à la brosse qu'au pinceau. Et je trouve que les films des années 2000, son diptyque sur la guerre d'Iwo Jima, L'Échange, Million Dollar Baby, sont des films beaucoup plus calligraphiés. Sont des films qui ont des charmes et des valeurs et que je discute, mais je me permets aussi d'en critiquer la forme parce que je trouve que cette forme-là, à ce moment-là, il y a un désir de grande forme. C'est comme si Eastwood était rattrapé par le discours critique enfin favorable sur lui, et qu'il en tenait compte, et qu'il avait comme une conscience d'auteur. Alors que ce qui me plaît dans Eastwood, c'est que c'est un auteur qui ne se pose pas la question de savoir s'il en est un ou pas. Dans les années 2000, je trouve que cette question le rattrape, et génialement, dans les années 2010, je trouve qu'il s'en débarrasse. Et les films, effectivement, peuvent paraître plus frustres, moins léchés, mais je trouve beaucoup plus excitants.
Mais il faut certainement ne jamais oublier que chez Eastwood, c'est peut-être avant tout un jazzeux qui s'exprime en lui. Il y a Bird, évidemment. Il y a évidemment la découverte de Charlie Parker à 16 ans dans un concert à Los Angeles. Mais formellement parlant, ça continue à le travailler.
Oui, ça le travaille, mais d'une drôle de manière, parce que quand il fait Bird, par exemple, en 1988, donc un film hommage à son idole Charlie Parker, Eastwood sait qui il est, c'est-à-dire qu'il ne cherche pas, pour le coup, à filmer, j'allais dire, à la Parker. Il ne cherche pas à faire du bebop en termes de mise en scène. Et d'une certaine manière, il livre un film classique, voire qu'on pourrait considérer un peu académique. En tout cas, c'est un film très respectueux de son sujet, mais où il ne cherche pas à le, et comment pourrait-il, enfin, le mimer, ou le singer, ou le suggérer par la mise en scène. Et disons que la pulsion bebop, elle est chez Eastwood peut-être davantage dans le jeu, ou davantage quand il est avec, alors là, pour le coup, un Charlie Parker de la mise en scène, c'est-à-dire avec Sergio Leone. C'est-à-dire Sergio Leone, voilà quelqu'un qui reprend, comme a fait Charlie Parker, des standards, et il les rend méconnaissables, tout en faisant en sorte qu'on reconnaisse le genre. Et ça, je trouve que là, Eastwood donne en quelque sorte le plein de ce qu'il peut en tant qu'acteur, même si évidemment dans ces années-là, ce plein-là est considéré comme défaillant, puisque la même Pauline Kael dira à propos des premiers rôles d'Eastwood, on peut même pas dire que c'est un mauvais acteur, puisque ce n'est pas un acteur, jouer ne fait pas partie de son contrat.
Oui, mais on peut dire simplement qu'il fait la note juste avec le minimum d'effet.
C'est ça, la note juste. Mais à l'époque, c'était considéré comme l'absence de note, c'est-à-dire aucune palette. D'autres avaient vu plus clair, hein, je pense à Richard Burton qui s'y connaissait en jeu d'acteur, et en jeu d'acteur différent de celui d'Eastwood, et qui avait fait un film avec lui, et qui avait qualifié son jeu d'une expression que je trouve un peu indépassable. Il avait dit « il est doté d'une sorte de léthargie dynamique ». Et bon, cet oxymore-là me convient tout à fait, et je trouve très réussi. Et ce qui était drôle, c'est que Eastwood, lui, sachant qu'il allait jouer avec Burton, a dit « ça va, j'ai compris, il do the talking, I'll do the killing ». C'est-à-dire, à lui le talent d'orateur, et moi je m'occuperai de buter les méchants. Well, I preach some. Feel a sermon coming on me. The topic will be sin. And that's what I'm again. If you want to hear my story, then settle back and just sit tight while I start reviewing the attitude of doing right. You got accent, you ate the positive and eat the negative and latch on to the affirmative and don't mess with Mr. in between. You gotta spread joy up to the maximum and bring bloom down to the minimum. Have faith or pandemonium liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we better accentuate the positive and healing and eat the negative and latch on to the affirmative and don't mess with Mr. in between.
vous aurez reconnu Bernard Benoliel, la voix d'Eastwood, qui chantait qu'il fallait accentuer le positif et éliminer le négatif. C'était dans la BO de Minuit dans le jardin du bien et du mal. Nous n'avons fait évidemment qu'effleurer votre considérable et réjouissante somme consacrée au cinéaste dans toutes ses incarnations. Pour en savoir plus, Clint Eastwood, Je suis celui que je veux être, c'est à se procurer d'urgence aux toujours excellentes et bien nommées éditions de l'œil. Et en attendant, Clint Eastwood, Naissance d'un cinéaste, c'était dans Plan Large le 2 février 2019 à vos podcasts. Et n'hésitez pas à vous abonner à notre émission. Vous écoutez précisément Plan Large sur France Culture et c'est un autre acteur et cinéaste qui nous intéresse à présent. Ça fait quelques temps qu'à Plan Large, on tourne autour de Thomas Gijol. On avait évoqué il y a 4 ans dans une émission consacrée aux représentations cinématographiques de l'esclavage, le Casse-Départ qu'il avait co-réalisé avec Fabrice Eboué en 2011. On avait salué avec ses réalisatrices son étonnante prestation plus corse que l'écorce dans le modeste et excellent Fraté de Carole Rocher et Barbara Biancardini qu'il avait co-scénarisé il y a 2 ans. Plus étonnant encore, surtout pour celles et ceux qui ne connaissent de lui que l'humoriste de stand-up ou le réalisateur de comédies comme Fast Life et Black Snake, Thomas Gijol se remet en jeu en allant tourner dans son pays d'origine, le Cameroun, et dans une forme très naturaliste héritée du documentaire qui l'a inspiré, ce nouveau film qui a fait les belles heures de la dernière quinzaine des cinéastes à Cannes, Indomptable, qui tient à la fois du polar, on y voit un commissaire aux méthodes parfois expéditives mener l'enquête sur le meurtre d'un de ses officiers, et du drame familial, parce qu'il n'est pas beaucoup plus doué pour maintenir dans son foyer un ordre dépassé. Comment un homme de tenue, comme il se présente, soit un homme de principe dans un monde qui n'en a plus, voit se contaminer les deux sphères de sa vie. Il se comporte en père avec ses suspects et en flic avec ses enfants. C'est un des enjeux de ce bel Indomptable. On en cause tout de suite avec son auteur, sans recourir, nous, à la manière forte.
Viens-moi bois de prunier.
Il est où? Vous allez me tuer, prunier.
Viens-moi ce type-là. Pousse-la. Ça rentre dans ta tête.
Je ne vole pas.
Ça rentre dans ta tête. Ça rentre dans ta tête.
Je ne vole pas.
Pourquoi tu es bête comme ça? Tu es Camerounais, non?
Oui.
Voilà. Donc tu es intelligent. C'est les petits Nigériens qui se font botter comme ça. Tu es d'accord, non?
D'accord.
Voilà. Donc, quand tu es impliqué dans un sale coup, tu dis oui, mais je n'étais pas seul. Là, tu as fait le malin de tes amis. Là, on fuit. Tu as payé. Seul, tu as payé pour eux. Ça, c'est bête. Donc là, il faut me raconter ce qui s'est passé. Parce que nous, on est déjà au courant. Alors, ce n'est pas la peine d'insister.
Ouais. Et qui est? Le pays, là, ce n'est pas possible. Comment on peut travailler dans des conditions pareilles? On perd même le temps avec les petits braqueurs minables.
Bonjour Thomas Gijol.
Bonjour.
Voici dans ses œuvres le commissaire Bilong qui alterne coup de chicotte et tentative de raisonnement de son suspect. Il sort d'un film, ce commissaire, d'un documentaire signé Moscou Bucco, c'est un crime à Abidjan, c'était dans la même série d'ailleurs, enquête de police que le Roubaix Commissariat Central Affaires Courantes qui avait inspiré Arnaud Desplechin, son Roubaix Une Lumière en 2019. Vous l'avez rencontré comment ce film et qu'est-ce qu'il a provoqué en vous?
Moi j'ai vu ce film à la fin des années 90 sur Arte. Je l'ai vu lors de sa première diffusion, je pense télé, en tout cas en France. Et je l'avais enregistré en VHS à l'époque. C'était une autre époque, comme on dit. Et surtout, non, ce qu'il a provoqué, bah, c'était loin de moi et en même temps tellement proche. En tout cas, le personnage du commissaire, il a très vite fait écho à mon père. Et parce que je reconnaissais dans cette gamberge, dans cette façon de... même de s'exprimer, de réfléchir. Je voyais le pragmatisme un peu de cette génération de parents qui était un peu incarné dans ce commissaire et qui me rappelait vraiment la figure de mon père.
Précisons que votre père n'est pas commissaire de police.
Non, mais il a été gendarme. Donc il a quand même des réflexes, il en a eu même avec nous, de cet ordre-là un petit peu.
Alors, quand on part d'un documentaire, on peut s'en éloigner complètement. Mm-hmm. Vous faites un peu les deux. Vous reprenez parfois des séquences, même qui étaient dedans. Est-ce que c'était pour frotter votre cinéma au réel ou de rejouer une situation qui était déjà passionnante?
Bah oui, non, c'est l'envie du réel. Moi, je suis très passionné de documentaires de façon globale. Et j'avais envie, de toute façon, en allant tourner en Afrique, au Cameroun, j'avais envie d'être dans la réalité, de de donner quelque chose de brut et j'allais pas réinventer des choses qui, comme vous l'avez dit, certaines fonctionnent très bien. Je voulais juste, moi, y injecter de l'intime, mettre une dimension, voilà, qui est derrière cette présentation un peu féroce du commissaire. Qui est-il vraiment? Quelles sont ses failles? Et quel est le cheminement qu'on va suivre?
Alors ça, on va y revenir tout à l'heure à l'intime, mais cette dimension documentaire, vous en jouez beaucoup dans le film, puisque vous tournez à Yaoundé, au milieu de la population. Il y a des plans vraiment très nouvelle vague, on dirait, notamment dans le marché à Yaoundé. Comment ça s'est passé très concrètement ce tournage? C'était un peu un tournage guérilla? C'était très officiel, très installé?
C'était officiel et puis c'était guérilla en même temps parce que les conditions de tournage ne peuvent pas être autres que celles-ci. C'est que on peut pas arrêter un quartier pendant qu'on tourne, on peut pas arrêter la circulation pendant qu'on tourne. Donc on s'adapte. À chaque fois, c'était de s'adapter parce que il n'y a pas la même industrie. Même si on a des autorisations de tourner, on va pas empêcher les gens de vivre leur vie, si on peut dire. Donc à chaque fois, il y a toujours ce petit côté guérilla qui, au final, apporte ce supplément d'âme et nous met encore plus dans la réalité et qui font que moi, j'étais toujours très, très minutieux à ce niveau-là dans le jeu et autres parce que tout sonnait vrai autour de moi. Donc forcément, j'avais pas envie de surjouer la vie.
Non, on peut pas tricher à ce moment-là.
Non. On a même cette exigence à toujours être dans le vrai. Ça, c'était sûr que les conditions, et on le sait de toute façon, dès qu'on fait le voyage sur ce genre de terrain, il faut être connecté à la vie.
Alors c'est un Yaoundé que vous filmez comme une grande matière organique assez labyrinthique, très nocturne aussi, polar oblige. Vous avez travaillé avec un grand chef opérateur qui s'appelle Patrick Blossier qui a commencé sa carrière en filmant le Cameroun. Il a commencé avec un cinéaste camerounais qui s'appelait Daniel Kamwa. Comment vous avez discuté avec lui de la manière dont vous alliez filmer cette ville?
Patrick, c'est un vieux routard, mais il connaît son métier, quoi. Donc c'était une proposition de, on a vu quelques chefs op, mais mon producteur Pascal Cocheteux, avec l'expérience qu'il a, me disait quand même que le profil de Patrick était peut-être le plus adapté. C'est vrai que quand je l'ai rencontré, bon, il y avait une sorte d'évidence, quoi. Et il y avait un côté aussi où c'est un homme de terrain qui y va. Moi, j'avais pas cette envie de styliser l'image. J'avais pas cette envie de faire un film. Faire un film beau, oui, mais pas un film où on aurait vendu une sorte de carte postale d'un peu du Cameroun ou de l'Afrique. J'avais envie qu'on ait des belles images, mais liées à la réalité. Et Patrick, il a cette qualité, en tout cas, de travailler vite, bien et de faire beau. Donc, assez rapide que le choix s'est fait. Et puis après, dans nos discussions, c'était évidemment dans le découpage, on savait un peu où on allait et puis on savait les conditions. Mais il a été très, très impressionnant du début à la fin d'ailleurs.
Et c'est ce qui permet, avec un vieux routier comme lui, de tourner avec un petit budget, parce que c'est un petit budget par rapport à d'autres films que vous pu faire. Pour vous, c'est une contrainte ou une liberté, justement, d'avoir cette légèreté-là?
C'est une liberté parce que de toute façon, l'industrie du cinéma étant scalée au Cameroun et aller avec plus de budget, je pense que ça aurait été de la gabegie, quoi. Donc au final, y aller avec un budget raisonnable et d'y aller un peu en commando, se dire voilà, pendant ce temps-là, on est sur le film, on est à fond, on tourne utile. Je ne dis pas qu'avant on tournait mais là il y a pas de rush à la poubelle, quoi. Il y en a juste mis de côté pour le bien de la narration, mais c'est pas du tout des gâchis ou de la perte de temps. Il y a aucun regret sur ça. Donc le petit budget permet aussi de dans des films, dans des conditions comme celles où on a tourné, d'être tout de suite réactif, de très vite trouver des solutions au cas il y a tel décor qui se plante ou pour telle raison météo, on peut pas faire ça, paf, on fait ça vite fait parce qu'on est en économie légère et on peut se le permettre. Une industrie différente, on va pas déplacer des camions d'un endroit A à B si on est dans une économie lourde ou dans d'autres conditions de cinéma.
Alors, dans ce personnage de commissaire, à la fois inspiré du commissaire Kouassi, donc celui du film de Moscoubouko, de votre père, on y viendra. Est-ce qu'il y a d'autres figures du polar, des policiers de cinéma qui ont pu vous inspirer? On parlait tout à l'heure de Clint Eastwood.
Ouais. Justement, Clint Eastwood, ça a été l'antipode, et c'est bien d'ailleurs, parce que Je suis très fan. J'ai regardé, en tout cas, comme tout le monde, l'inspecteur Harry, Dirty Harry et tout. Mais quand on voit justement ce flic, on se dit, bah, c'est surtout pas ce qu'il faut qu'on fasse. C'est pas être dans cette espèce de pas surhumain, mais un petit peu quand même. Et de garder quelque chose de l'ordre de connecter au peuple, connecter à la ville, de rester vrai, en fait, de ne pas fantasmer. Donc, c'était un bon garde-fou de voir tous ces films un peu avec des super flics, parce qu'on sait, en tout cas, moi, je sais que je voulais être un norme humaine, raconter l'intime, raconter cette enquête qui n'est pas non plus jouer le suspect. Tout va bien. Donc, voilà, sur le côté un peu les pièges à éviter. Et puis après, voilà, moi, je suis très fan de plein d'autres polars. Je ne dirais pas qu'ils m'ont inspiré directement, mais là, récemment, Le Caire Confidentiel, qui est un super polar. J'ai envie de parler du personnage de Al Pacino dans Heat aussi, qui me vient comme ça en tête, qui sont loin du mien, mais qui touchent quand même des choses... voilà, un peu universel, du flic un peu solitaire et qui envers et contre tout va au bout de sa mission.
Alors, en parlant de cinéma et de policiers, notre stagiaire de seconde, Cassandre Koff, a une question à vous poser.
Bonjour, exactement. Je voulais vous demander pourquoi la violence policière est-elle omniprésente dans ce film Indomptable ?
Ah, dis donc, la stagiaire n'a pas été...
elle a vu votre film, elle a bien regardé.
La violence est-elle omniprésente ? Elle est présente. Omniprésente, je ne suis pas sûr. Parce qu'elle fait partie, pas dire de l'ADN du film, mais si, parce que cette violence, elle met en tension cet homme qui est un homme sous tension à tous les niveaux, d'un point de vue familial et aussi dans la rue. Et moi, je n'ai pas de souci, en fait, avec la violence, dans le sens... je ne l'aime pas, mais quand il faut montrer des choses un peu brutes, il faut y aller. Ça fait partie malheureusement aussi de la vie. Mais j'ai pas un plaisir fou à filmer la brutalité, la violence. Mais ça fait partie de la vie. Maintenant, violence policière, elle est au niveau de cette société. Cette société, elle fonctionne d'un point de vue. C'est vrai qu'on regarde avec nos yeux d'occidentaux, on se dit oula, c'est un peu violent. Je peux le comprendre. Mais cette société, elle est pas, c'est pas la nôtre, en fait. Donc, c'est d'autres codes. Et la violence policière, j'aurais envie de te dire, elle est partout. Partout, il y a de la police, il y a malheureusement de la violence. Il y en a en France, il y en a aux États-Unis, il y en a au Brésil, il y en a partout. Donc, c'est une envie d'être honnête, surtout. C'est pas de cacher, j'aurais fait quelque chose d'un peu édulcoré, ça aurait pas sonné vrai.
Les méthodes policières sont le reflet du degré de développement du pays où elles sont pratiquées, disait le commissaire Kouassi dans le film de Moscou Boukou. Alors, vous parliez de l'intime, de la violence aussi, en milieu familial. En voici un exemple.
Ferme la porte. Assieds-toi. Mon grand-père se cachait dans le maquis pendant la guerre pour que ce pays soit indépendant, pour que toi et moi aujourd'hui marchions librement. Vous vous cachez pour entrer sournoisement en pleine nuit et je ne veux même pas savoir d'où.
C'est juste que...
Ça va. Fils, vous vivez une époque dangereuse et il va falloir être à la hauteur. Moi, à ton âge, j'ai dû enterrer mon père et mon petit frère. La mort, là, c'est pas quelque chose qui m'impressionne. Je suis déjà auto-immunisé par rapport à ça. Mourir aujourd'hui, demain, c'est pas quelque chose qui peut me faire peur. Mais je ne suis pas éternel. Si demain je dois partir, c'est vous qui allez prendre le relais. Tu entends ce que je te dis, là? Tu connais le chanteur Marvin Gaye?
Et
tu sais comment il est mort?
Non.
Son père l'a tué.
Il est toujours comme ça, Thomas Gijol, votre commissaire Billon, quand il est père. Mais c'est aussi comme ça dans la vie. On ne sait jamais trop s'il plaisante ou s'il dit des choses très, très graves et très dangereuses au premier degré. Et c'est sur cette corde raide que vous le jouez.
Ouais. Bah, après, c'est la corde raide de la vie, j'ai envie de dire. Hein. Des fois, quand c'est grave, au fond, on a toujours des petits... Je sais pas, on n'a peut-être pas des sourires, mais on a besoin de désacraliser, et des fois quand c'est trop drôle, ça l'est pas pour d'autres, je sais pas, moi j'ai pas une lecture grave ou drôle de la vie. Je trouve que la vie elle est complexe, on peut des fois avoir des fous rires à des enterrements, quoi. Donc à partir de là, je me dis que même quand c'est grave, on peut toujours en tirer autre chose.
Et vous êtes surpris des réactions que peuvent avoir les spectatrices, les spectateurs de vos films? Vous restez dans les salles parce qu'il y a des moments où les gens rient, par exemple, qui sont peut-être des moments que vous n'aviez pas prévus comme étant des moments drôles.
Ouais. Non, mais moi, ça me gêne pas parce que ils prennent l'ensemble. Et comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai joué effectivement premier degré. C'est un film qui est plus de l'ordre du polar, du drame, si on peut dire, mais au final, je m'y retrouve. J'ai pas été dans une posture, j'ai pas essayé d'être plus sombre que je le suis. Je suis sombre. Enfin, il y a une partie de moi qui est sombre, je suis pas sombre H24. Mais j'ai mis quelque chose d'un peu sombre là-dedans. Mais j'étais pas du tout en train de composer quelque chose. Voilà, c'est ce projet, ce personnage. C'est quelque chose qui m'habitait depuis X temps, que j'avais envie de faire pour plein de raisons intimes, personnelles et pas que. Donc j'ai été sincère en fait, et dans tout ça, dans cette sincérité, bah, y a des moments plus légers, en tout cas qui ont une lecture plus légère pour le public, et tant mieux.
Bah, c'est là qu'on n'est pas très loin de Clint Eastwood à nouveau, parce que vous avez une sorte de minimalisme du jeu, vous êtes un peu dans l'understatement en permanence, c'est quelque chose que vous travaillez ou c'est votre nature profonde?
Non, je pense que c'est ma nature, parce que ça m'a causé des problèmes quand j'étais jeune, sans que je le sache. Après effectivement, peut-être que je l'entretiens puisque je ne le travaille. Mais c'est vrai que plus jeune, oui, j'entendais beaucoup au collège, on ne sait pas si c'est du lard ou du cochon, quand je disais quelque chose ou que j'avais une réaction, parce que les professeurs, certains du moins, n'arrivaient pas trop à percevoir si je me foutais de leur gueule ou que j'étais très sérieux. Donc j'ai eu quelques soucis par rapport à ça. Mais aujourd'hui, je le cherche, je crois, plutôt bien.
Est-ce que c'est quelque chose qui vient précisément de cet humour typiquement camerounais, parce que les personnages ont beaucoup de réparties dans votre film, notamment les femmes, qui ne sont pas les dernières à remettre votre personnage à sa place. Il y a un côté comme ça, pince sans rire, mais un humour noir aussi, proprement de Yaoundé.
Du Cameroun, alors noir, je dirais pas ça, parce qu'ils sont pas très cyniques là-bas, ils sont pas adeptes du cynique, mais ils ont de la distance. Ils ont une distance par rapport, en fait, c'est ça le cynisme. Leur ville est déjà un peu, la société elle est déjà parce qu'elle leur offre, si je puis dire. Donc du coup, ils en rajoutent pas, mais ils ont beaucoup de distance et de second degré sur eux-mêmes, sur les conditions, sur plein de choses. Donc l'humour, au final, il est quand même omniprésent. Il est omniprésent et c'est assez drôle, justement. Ça va de l'enfant jusqu'à la grand-mère. Il y a beaucoup de personnages drôles là-bas. Qui existe et tout. Donc non, il y a beaucoup de personnalités. C'est vraiment un pays, en tout cas une société très riche en ça, quoi.
Mais dont vous ne cachez pas non plus, vous parliez de la violence tout à l'heure, mais aussi les conséquences très concrètes de la corruption. Par exemple, il y a une scène qui est vraiment... qui désole à la fois le public et votre personnage, c'est les conséquences très concrètes quand on empoche de l'argent au lieu de le donner à la personne qui devrait la recevoir, et ça peut aboutir à une mort.
Ouais, bien sûr. Bah, j'ai envie de dire, la corruption, comme je disais pour la violence, elle existe partout. Mais disons qu'au stade d'une société qui est moins développée que la nôtre, c'est concret, quoi. On voit tout de suite les conséquences. Nous, c'est sûr que la corruption en France, on ne voit pas les conséquences directes, mais elle existe.
Bien sûr.
Il ne manquerait plus qu'elle n'existe pas ici. Donc, elle existe partout, d'ailleurs, dans le monde. Mais effectivement, dans une société où certains luttent pour manger quotidiennement, bah, la corruption, on voit tout de suite les effets, quoi. Effectivement, ça, sur ce film, bah, on voit petit larcin, énormes conséquences.
Et puis on pourrait parler aussi de la dimension formidablement sonore de votre film, la musique presque concrète que vous faites avec Danny Sinté et les bruits de la ville. Et puis il y a ce Marvin Gaye qu'on a entendu citer tout à l'heure par, par votre personnage. J'imagine que c'est pas uniquement ses qualités infanticides qui vous intéressent chez lui.
Gaye. Loin de là. C'est un artiste qui a bercé mon enfance, qui continue encore à m'accompagner et qui berce l'enfance aussi de mes enfants. Et c'est vrai que c'est une figure du côté de mon père qui m'a beaucoup inspiré. Mon père l'écoutait beaucoup. Je me faisais une espèce de projection de lui paternelle quand j'étais petit en tenant le vinyle d'un de ses albums. Donc c'est une figure de ma vie, on va dire.
Eh bien, on termine avec lui.
Super. This is where I wanted to be. Most of my life I had been all alone. And you're so sweet to me. Don't think I'm ever wrong.
Indomptable est sorti en salle cette semaine. Le film est soutenu par France Culture et on s'en réjouit. Vous écoutez très justement France Culture et Plan Large. Quels autres films dans les salles cette semaine ? Réponse en quelques sons. If you have heart, you have hope. And you have heart in you. Isn't that wonderful?
Léla, c'est pas de la vieille histoire. C'est important. Qu'est-ce qu'elles étaient belles et pleines de vie. Décidé à se battre.
Je sais qui c'est. Et je sais pas comment qu'elle s'appelle.
Comme il a mis la main sur cette femme. C'est
une femme qui a mis la main sur cette femme.
Je vais parler à lui. Tu n'as pas de la gueule. Mais qu'il t'a vu, je suis
là. It used to take me longer to remember mother's voice. Back in here again.
Men det kan väl hända att de inte låter oss gå i skolor eller se till att vi bor som folk, men så länge de låter oss kalla våra bukhinneinflammationer för magknip, så länge har vi rätt att skrika så att de hör oss.
Sur vos écrans depuis ce mercredi, sans compter les très bons Différentes et le rendez-vous de l'été dont nous avions parlé la semaine dernière avec leurs réalisatrices respectives Lola Doyon et Valentine Kadic. Vous avez un monde qui s'écroule quand meurt celui qu'il a en tête. C'est l'intrigant au début, puis de plus en plus lassant à mesure qu'avec Joliès il explicite son mystère. The Life of Chuck de Mike Flanagan, d'après une nouvelle de Stephen King, un film dont on se réjouit qu'il accorde autant d'importance à la danse, mais dont on se désole qu'il la filme si mal. Une passionnante enquête sur des images retrouvées, celle du cinéaste militant Yann Lemasson, qui en 1962 avait filmé des activistes algériennes à leur libération de prison, mais dont le son avait été perdu. C'est Les mots qu'elles eurent un jour de Raphaël Pilosio, qui avec mélancolie décrypte les promesses gâchées de la guerre de libération pour les femmes qui, y ayant pris part, espéraient une place que les hommes qui ont immédiatement capté le pouvoir en Algérie leur ont refusée. Tout aussi féministe dans le registre fantastique dingo et trash, c'est le très bizarre et quasi punk rock Sister Midnight, premier film de l'Indien Karan Kandari, où comment se défaire au mieux d'un mariage arrangé. Tout aussi trash, mais là littéralement, c'est le très convulsif Crass, premier long métrage, là encore, de la Britannique Luna Carmoon, sur la très malaisante relation entre une petite fille de 7 ans et sa mère, atteinte du syndrome de Diogène. Et puis côté rétrospective en salle, l'œuvre passionnante du Suédois Bo Widerberg, dont vous nous parliez, Charlotte Garçon, il y a un mois, c'était au Festival de Cannes, c'est à découvrir en 11 films cette semaine. Il faudra en revanche attendre le 2 juillet pour voir en salle le documentaire de Jon Asp et Mathias Norborg qui lui est consacré, Being Bo Widerberg. Quant à Rainer Werner Fassbinder, dont 18 films ressortent cette semaine à l'occasion des 80 ans de sa naissance, il y a aussi un nouveau coffret Blu-ray, on en parle la semaine prochaine avec Sophie-Catherine Gallet. Mais puisque vous êtes là, Charlotte, je profite de votre votre présence pour dire quelques mots d'une autre édition Blu-ray et 4K Ultra HD pour qui en est équipé, édition collector et définitive d'un de vos films de chevet, L'Immarcessible, La Règle du Jeu de Jean Renoir, avec foultitude de bonnies, des cartes postales qui reprennent les affiches du film et surtout un livre sur tous ces aspects que vous signez, Charlotte. Ça s'appelle Le Dessous des Cartes. Et puis ça vous concerne encore, mais aussi et surtout toutes celles et ceux qui rêvent par exemple de lire dans le texte une certaine tendance du cinéma français de François Truffaut ou de L'Abjection de Jacques Rivette sous des couvertures respectivement consacrées au Petit Fugitif ou à Exodus. La collection complète des Cahiers du Cinéma est désormais consultable en ligne et sur abonnement, soit plus de 800 numéros où on peut par exemple vérifier comment Clint Eastwood a été traité dans la revue au fil des ans. Ceci annoncé, puisqu'on approche de la fin de cette émission, on retourne au début de quelques films et de celui-ci en particulier. Dans le noir qui s'ouvre sur la lumière aveuglante du désert, un cavalier indiscernable qui arrive de la profondeur de champ, une famille qu'il reconnaît et l'accueille, c'est Ethan, c'est John Wayne. C'est le début de La Prisonnière du désert de John Ford. Si une mauvaise fin peut ruiner un film dans l'esprit du public, un début est toujours une promesse, parfois une ouverture comme à l'opéra, en tout cas un incipit, comme on dit, des premières phrases d'un livre. Le livre dont vous allez nous parler, Charlotte Garçon, commence par cet incipit. Il y a quelque incongruité à parler d'incipit à propos des premiers plans d'un film. Et c'est pourtant ce que fait Pierre Gabaston, professeur des écoles et écrivain de cinéma, dans ce « Ainsi commence-t-il ?» et les « îles en question », eh bien ce sont « La Prisonnière du désert », donc, mais aussi le « Scarface » d'Howard Hawks, « L'Ange des maudits » de Fritz Lang et « Les amants de la nuit » de Nicolas Ray. Évidemment, ce n'est pas le pire corpus, Charlotte.
Longtemps, un incipit sur un écran me toucha de bonheur. En pastichant furtivement le début du grand roman de Proust, Pierre Gabaston arrache à la nuit de la mémoire d'un cinéphile, à l'obscurité de la salle, et en l'occurrence dans le magnifique film de John Ford de 1956, à l'ombre du contre-jour en plein désert, les origines de toute histoire projetée sur un écran. Tout commence souvent dans ce merveilleux corpus classique, en effet, des années 40 et 50, par une douzaine de plans encore muets, comme si le cinéma devait reparcourir ses propres origines en accéléré, refaire un inventaire rapide de ses composantes à l'état brut, la lumière, le son, c'est-à-dire d'abord la musique, avant que ses personnages n'apprennent à parler. Pourtant, un début de film, c'est rarement une naissance. Les premiers plans de La Prisonnière du désert ressuscitent le personnage principal du récit qui va suivre, écrit Gabaston, fourbu, sombre, il porte le chapeau noir de ses chimères mortes. En effet, Hissan s'est battu pendant la guerre de sécession aux côtés des sudistes. C'est donc un homme défait, errant et amer qui rentre au bercail, au ranch familial, seul hameau dans le désert, bientôt saccagé par les Comanches. Mais avant le grand massacre, le commanchement, si je puis dire, pardon, de cette petite communauté de pionniers bientôt attaqués, il y a l'étrangeté de ce début en plein Monument Valley, dans l'horizontalité à perte de vue, cette femme qui ouvre sa porte et qui donc accomplit une sorte de geste, de l'augure. Elle n'a pas pu entendre, en fait, son beau-frère Hissan approcher. Et donc, et forcément, elle l'a pressenti et même, on pourrait penser, elle l'a suscité. Le début d'un film, c'est ça. le regard aimant d'un cinéaste qui, en découpant un cadre dans celui posé par les standards techniques du cinéma, dit « Welcome home » au spectateur, bienvenue dans la maison cinéma. En nous faisant passer par l'orifice de cette porte, cette femme nous fait naître à l'histoire, écrit Pierre Gabaston, mais rien ne commence, tout recommence. Ihsan revient dans un foyer toujours grevé par ses mésalliances et ses amours confisqués. Quand, au début de Scarface, la caméra d'Howard Hawks s'infiltre dans un monde clandestin réprouvé, une fin de fête au petit matin au café Costello de Chicago, le patron, Louis Costello, cuve son vin parmi les serpentins en dérisoire roi de la pègre à la couronne de papier. Comme une sorte de coup de balai après la débauche, la longueur du plan séquence prépare à une déflagration, le meurtre de ce premier caïd qui initiera rien moins qu'une guerre, la fin des gangs à l'ancienne. Dès lors, écrit Gabaston, cette mise en scène est vouée à un retour compulsif. Je le cite, un personnage entre et sort, la caméra l'escorte, prend le rythme de ses pas, en bout de course éclate une agression outrageante, mortelle, ou bien une séduction sans détour. Les débuts de film qu'a choisi Gabaston mettent à jour la nature violente de tout incipit, loin de la banale nécessité narrative d'une scène d'exposition. On touche là à ce qui me paraît être l'un des devoirs premiers de la critique, trop souvent réduite à l'expression d'une évaluation, c'est-à-dire qu'écrire sur un film, c'est d'abord faire l'effort de le décrire. Cette première traduction d'images et de sons en mots relève déjà de l'interprétation. Au début des Amants de la nuit de Nicolas Ray, l'œil de la caméra survole une voiture décapotable, plus très fraîche apparemment, qui d'un chemin à ornières bordant un champ à un autre plus large, gagne à la hâte. Que fuit-elle une route carrossable ? Aucune information verbale n'encrasse le regard du spectateur, pris de vitesse par ce démarrage fulgurant. Alors à l'arrière de cette voiture, il y a Bowie, un tout jeune homme joué par Farley Granger, embarqué dans la cavale, et il est témoin d'actes violents qui vont s'imprimer dans son regard avec la même sidération discrète qui nous frappe, nous spectateurs, en tout cas qui frappe les spectateurs de 1948 devant le premier plan hollywoodien jamais tourné à l'hélicoptère. La caméra de Nicolas Lasseret, écrit Pierre Gabaston, éprouve ce que Bowie éprouve, boit le monde avec ses yeux, ce monde impitoyable destiné à lui briser les reins. Alors si l'incipit fait ainsi programme, le baiser qui ouvre l'ange des maudits de Fritz Lang devrait augurer d'une romance sans nuages. Le cow-boy Vern Haskell vient de marquer son dernier veau et donc il s'offre une petite récréation dans la boutique de sa fiancée qui l'embrasse langoureusement. Mais on l'entend au générique qui précède les paroles Tony truande d'une chanson, je cite Gabaston, cravache le baiser d'ouverture et le contredise. Elle raconte une histoire de haine, de meurtre et de vengeance que l'amourette semble appeler dans sa mièvrerie même. Il fallait bien un Allemand en exil, l'auteur de M. le Maudit et de Dr. Mabuse, pour s'attaquer non plus à l'incipit mais à l'exquis. Pete, incontournable du cinéma hollywoodien, l'intouchable final kiss, ce baiser qui soutient le spectateur dans sa croyance en un monde unifié, réconcilié, apaisé. Fritz Lang en rouvre la cicatrice. En commençant ainsi de manière déstabilisante par la fin, l'ange des maudits renvoie l'auteur à cette petite douleur qu'enfant il venait chercher à chaque séance. Lui qui, confie-t-il, arrivait exprès trop tôt dans le cinéma pour se ménager un temps d'attente dans la salle. Je ne voulais pas que le film commence. Les premiers plans me charment, mais aussi sûrement qu'ils me ravissent, ils me laissent anéanti, me précipitent vers la fin, l'inexorable fin. Trop tôt, le dénouement me saute à la gorge. » Fin de citation. Comme lui, je pense que vous aussi, nous avons tous un jour refermé un livre génial, justement parce qu'on avait peur de le finir. Et cette panique du court-circuit entre les plans d'ouverture d'un film et le couperet de The End a désormais un remède, non seulement revoir les films, hein, bon ça je vais pas vous l'apprendre, c'est quand même bien plus rassurant que de voir un film pour la première fois, mais aussi pour appuyer sur la cicatrice, revenir sur ce que l'on a vu et entendu, et donc enfin se mettre à écrire. And the passion that drove him on and on and on. It began, they say, one summer day when the sun was blazing down. 'Twas back in the early 70s in a little Wyoming town. So
Listen to the legend of Chuckaluck, Chuckaluck. Listen to the wheel of fate. As round and round with a whispering sound it spins, the old, old story of hate, murder, and revenge.
Merci Charlotte Garçon. Ainsi commence-t-il Incipit sur un écran de Pierre Gabaston. C'est publié comme le Clint Eastwood de Bernard Benoliel aux éditions de L'Œil décidément. Plan large, c'est fini pour aujourd'hui. À la prise de son, François Saint-Jour et Stéphane Poitvin. L'émission était préparée par Anne-Vanessa Prévost et Cassandre Coff et réalisée par Anne-Laure Chanel.